RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Excellent début d'après-midi, la suite d'InfoMag avec le magazine Citoyen. On retrouve Nicolas Legrand et ses invités.
Le magazine Citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine citoyen. Quels sont les dangers de la consommation du cannabis? L'Agence sanitaire et sociale déploie une campagne de prévention concernant la consommation de ce produit stupéfiant. Pour en parler ce midi sur ce plateau, nous sommes en compagnie du docteur Barguil, pharmacien toxicologue. Bonjour.
Bonjour.
Et Marilyn Mel, infirmière au programme Déclic. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi. Alors que je le disais, il y a une campagne de prévention. On l'a vu notamment sur les réseaux sociaux qui a été déployée par l'Agence sanitaire et sociale. Peut-être, docteur Yann Barguil, pour commencer, vous avez mené de nombreuses études sur le cannabis en Nouvelle-Calédonie. Quelle est la particularité du cannabis ici? On a tendance à dire qu'il est beaucoup plus fort qu'ailleurs. Est-ce que c'est vrai?
Bon, effectivement, le cannabis calédonien est fort, se distingue par sa force. Alors, dans le cannabis, il y a plein de molécules qui sont intéressantes. Il y en a deux qui sont très intéressantes. C'est le THC, lui, il fait planer. Et il y a une autre molécule qui est le CBD, le cannabidiol, qui va contrebalancer les effets du THC. Et en Nouvelle-Calédonie, on a des plantes qui peuvent monter jusqu'à 15% de THC. Et chez les cannes, il n'y a pas du tout de cannabidiol, il n'y a pas du tout de CBD. Donc, c'est une plante qui est nocive. La plante qui pousse de façon sauvage est nocive, oui.
Ça, c'est des choses que vous avez pu voir au fur et à mesure. Est-ce que ce cannabis, il évolue aussi dans le temps? Est-ce que vous avez noté des différences, par exemple, au fur et à mesure de vos études?
On a arrêté les études il y a quand même quelques années parce que ça coûtait un peu d'argent. Mais sur 300 plants, sur 300 saisies, produits de saisie, ça pouvait monter jusqu'à 15% dans la feuille. Donc si on prend la fleur, ça monte plus haut. Et je pense que maintenant, les personnes peuvent savoir comment faire monter les taux de THC dans leurs plantes par Internet. On a accès à tout. Donc je pense que ça ne fait que monter, quoi.
Puisque finalement, c'est ce que recherchent les consommateurs de cette drogue, c'est d'avoir un taux de THC élevé pour avoir cet effet planant, comme vous dites. Et c'est ça aussi qui cause des problèmes sur la santé.
Oui, le THC, c'est vraiment quelque chose de nocif, parce que surtout à forte concentration, parce que le THC va mimer les effets des molécules qui sont que les mammifères, que les animaux, dont l'homme, synthétisent. Et donc, si on prend du THC qui vient de l'extérieur, ça va donner de faux messages. Voilà. Donc surtout, quand on est un enfant, un adolescent avec un cerveau qui est en pleine évolution, en pleine formation, jusqu'à 20 ans, le cerveau se développe chez l'enfant et l'adolescent. Et si on reçoit un message extérieur qui n'est pas délivré au bon moment, ça va entraîner des perturbations, oui.
Marilyn Mel, cette consommation chez les plus jeunes, c'est quelque chose qui inquiète particulièrement l'Agence sanitaire et sociale. On voit qu'en tout cas, la campagne de communication est basée sur ce public-là. C'est un public que vous recevez aussi?
Oui, à Déclic, on reçoit les jeunes jusqu'à 25 ans. Donc, c'est notre public prioritaire. Effectivement, le premier produit d'orientation à Déclic, c'est le cannabis. Donc, ça nous semblait important de pouvoir mettre en place une campagne d'information. On voit souvent qu'il y a des idées reçues, que... on nous dit en consultation que le cannabis c'est pas dangereux, que c'est une plante, que c'est naturel, que ça y a pas de problème, que tout le monde fume, que ça peut passer.
Il y a une banalisation de la consommation.
Une banalisation de la consommation, oui.
Et ça, c'est ça qui provoque ensuite peut-être des consommations excessives. On le voit parfois des gens qui fument comme si c'était simplement du tabac.
Oui, il y a des gens qui fument du cannabis comme du tabac. On voit surtout que le baromètre santé indique que chez les 16-18 ans, presque 30% fument régulièrement du cannabis. Donc c'est un peu inquiétant pour la jeunesse calédonienne, parce que ça a des impacts de fumer du cannabis, donc des modifications de la perception, de la réalité, des modifications dans le fonctionnement du cerveau, de l'attention, de la concentration, l'organisation de la pensée. Voilà, quelqu'un qui fume régulièrement du cannabis, ça a quand même beaucoup de mal à suivre des cours, à suivre une formation, à s'intégrer dans la société. Ça peut être plus compliqué.
Voilà. Parce qu'il n'y a pas simplement l'effet au moment où on est sous influence de cette substance, il y a l'effet sur le long terme aussi, peut-être des démotivations, des choses un petit peu compliquées.
Oui, une consommation régulière, ça implique quand même souvent une perte de motivation, des difficultés sociales, relationnelles. On va se retrouver après des fois dans une communauté où entre fumeurs, on va passer du temps des fois à chercher le produit, on va dépenser des fois de l'argent pour se procurer le produit. Donc ça peut être compliqué financièrement, ça peut être compliqué socialement, ça peut être compliqué au niveau de l'école, au niveau des formations, du travail des fois.
Alors, ces jeunes qui consomment du cannabis, comment ils tombent dedans, entre guillemets? Quel est l'élément déclencheur? Est-ce qu'il y a un profil type, d'ailleurs, des fumeurs de cannabis?
Alors non, il n'y a pas...
C'est festif, c'est...
Pas de profil type. Il y a des gens qui commencent en groupe, il y a des gens qui commencent tout seuls par imitation des autres, avec les cousins, cousines, avec les copains. C'est très variable. Ce qu'il faut dire, c'est que le produit est quand même facilement disponible dans tout ce que les jeunes peuvent rapporter. Donc, c'est justement pour lutter contre cette banalisation qu'on fait cette campagne et pour dire que ben, c'est pas sans danger de fumer du cannabis.
Et vous les accompagnez comment justement pour qu'ils arrêtent de fumer? Est-ce que vous arrivez justement en termes d'addiction à annihiler une addiction au cannabis? Est-ce que c'est facile?
Alors oui, on peut tout à fait gérer une addiction au cannabis. Alors c'est pas nous qui allons, c'est-à-dire que les jeunes des fois viennent de leur propre gré, des fois sont adressés par l'école parce que c'est interdit et qu'ils ont été repérés comme consommateurs. Des fois, ça va être les parents qui s'inquiètent aussi. Donc, on reçoit aussi des fois les parents en consultation des clics. L'idée, c'était vraiment de voir avec eux où ils en sont. Nous, on fait le point avec eux dans un premier temps. On essaye justement de voir qu'est-ce qui se passe pour eux, où ils ont envie, qu'est-ce qu'ils ont envie. On ne va pas décider à leur place, on ne va pas leur imposer des choses, on ne va pas juger. Voilà, souvent, c'est dans un premier temps peut-être réduire, et puis finalement, ils se rendent compte que ce serait bien d'arrêter. On accompagne, en fait. Et c'est eux qui trouvent aussi... nous, on a des solutions, mais il faut que ce soit la solution de la personne qui correspond bien à la personne. Donc, on est plutôt dans un accompagnement au sevrage ou à la réduction.
Quels sont les risques pour la santé du cannabis? On dit souvent que le cannabis est encore plus mauvais que la cigarette pour les poumons, notamment. Il y a les risques neurologiques. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu un état des lieux de ce que peut provoquer une consommation du cannabis sur un patient?
Comme je le disais tout à l'heure, les risques, au niveau des risques neurologiques, en fait, si on commence tôt, le fait de fumer du cannabis va interférer avec le développement normal du cerveau. Donc ça peut entraîner des malformations au niveau des neuromédiateurs, de la chimie du cerveau, donc qui pourra engendrer ce qu'on appelle des psychoses aiguës ou psychoses chroniques. Hein. La psychose chronique la plus fréquente, c'est la schizophrénie. Donc ça, c'est une chose. Donc c'est vraiment quelque chose de très mauvais, hein, d'avoir une schizophrénie, quelque chose qu'on peut traiter, mais qui est très difficile à traiter.
On dit qu'en Nouvelle-Calédonie, il y aurait 4 fois plus de schizophrènes par habitant qu'en métropole. On peut le relier directement au cannabis?
Concernant ce pourcentage, je ne sais pas, mais on peut le relier peut-être... c'est un peu risqué de dire que c'est
uniquement ça.
Que c'est lié directement au cannabis. Moi, ce que je sais, c'est que quand on parle des... Comment on a débuté à consommer du cannabis, eh bien, il y en a qui ont débuté dans le ventre de leur mère, hein, parce que dans une étude que nous avions menée, de 2014 à 2017, chez 3000 femmes enceintes, plus de 3000 femmes enceintes, 6% consommaient du cannabis, et encore, c'était vraiment sous-évalué, donc... Donc il y a 6% des enfants dans le ventre de leur mère qui sont exposés au cannabis. Mmh. Et on avait des bébés qui naissaient positifs au cannabis, hein, dans leur sang, dans les cheveux, dans l'urine. Enfin, dans l'urine, on l'avait mesuré, dans les cheveux aussi. Donc positif au cannabis, déjà 6%. Mais c'est vraiment le niveau bas, hein, minimum 6%. Rapporté au nombre de naissances, s'il y a 300 naissances par an en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'il y a pas loin de 200 bébés qui naissent chaque année exposés au cannabis dans le ventre de leur mère. Donc ça entraîne des troubles neurologiques, des troubles plus tard. Hein. De toute façon, les troubles, on va les voir plus tard, au cours du développement de l'enfant, vers 10 ans, même beaucoup plus tard. Donc ce sont des enfants qui n'arriveront pas possiblement des difficultés à travailler, à avoir une vie sociale normale, et puis surtout qui seront plus sujets à consommer des drogues plus tard, du cannabis et d'autres drogues. Donc voilà, si on parle de ces magazines citoyens, donc d'un point de vue citoyen, on peut pas bâtir un pays sur des consommateurs de cannabis dans le ventre de leur mère. Je veux dire, pour moi, c'est une catastrophe. Et puis, ma note personnelle, c'est que aujourd'hui, on voit en partie les dégâts causés par cette banalisation du cannabis. Et cette consommation du cannabis par les jeunes et par les parents qui consomment devant leurs enfants. Voilà.
Et on sait que effectivement, notamment dans les faits divers, les actes de délinquance, il y a souvent aussi du cannabis qui est mis en cause. On parle souvent de l'alcool, mais les gens peuvent être aussi sous l'emprise des stupéfiants. Ça, c'est aussi des choses dont vous parlez avec ces jeunes, au-delà de peut-être voilà de le traiter, mais d'en parler au moins.
Oui, alors c'est aussi au niveau des contrôles routiers et au niveau des accidents de la route aussi, où effectivement il y a l'alcool, mais il y a aussi le cannabis qui peut être présent. La commission des permis nous adresse aussi des jeunes pour qui le permis a été retiré. Donc effectivement, on reçoit aussi des jeunes dans ce contexte-là.
Mmh. Est-ce que ça suffit, par exemple, de se faire retirer son permis est-ce que c'est un élément déclencheur pour pouvoir arrêter? Est-ce que c'est une source de motivation suffisante?
Pas pour tous, pour certains, oui. Ouais. Mais pour quand même la majorité, ça marque, parce que c'est pas facile d'avoir son permis. C'est un peu galère souvent d'avoir eu le permis, donc... ça fait un petit coup de devoir retirer son permis. Ça peut être un petit déclic pour se dire, ben ouais, là, il faut que je fasse quelque chose par rapport à mes consommations. Donc, effectivement, on les reçoit et on les accompagne souvent sur deux, trois entretiens pour qu'ils puissent mettre en place des stratégies pour changer leurs habitudes.
On parlait de banalisation du cannabis. Face à une telle banalisation et à un produit qui est facilement accessible, même si on rappelle évidemment qu'il est illégal, est-ce qu'une campagne de communication sur les réseaux sociaux, c'est pas finalement un coup d'épée dans l'eau face à l'ampleur de la tâche pour communiquer contre le cannabis?
Alors, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, je pense pas. C'est très intéressant parce que déjà, on voit que l'ASS communique sur plein de sujets de santé, puisqu'on est. C'est l'émission de l'ASS. Il y a beaucoup de réactions sur les posts qui sont sortis, là, sur les différents réseaux sociaux. Donc,
c'est quasiment inédit, d'ailleurs, le nombre de réactions.
Voilà,
c'est...
plus que pour d'autres campagnes. Donc, on est très content des réactions qui sont diverses et variées, mais ça fait parler, c'est déjà ça. Ça soulève du dialogue, c'est important. C'est important de se dire que il faut faire quelque chose par rapport à ça, que plus la consommation est précoce, plus elle est importante, plus il y a de risques et plus les dommages sont importants. Donc c'est important de pas laisser sans information, pas laisser les gens avec des idées reçues banalisées. Donc voilà, c'est important de faire passer ces messages. Et puis c'est important de dire qu'il y a aussi des ressources qui existent. Donc il y a le Déclic, mais il y a aussi le CSA, le Centre de soins en addictologie pour les plus de 25 ans.
Donc ça, c'est au CHS.
C'est un service du CHS, mais qui est présent au centre-ville, au CMP, qui est présent au CHS et qui est présent au niveau du Medipôle.
Mmh. Donc là, c'est pour les plus de 25 ans.
Voilà.
Alors, on le sait, un jeune, il ne va peut-être pas forcément venir vous voir de lui-même. Mmh. Je ne sais pas s'ils viennent d'eux-mêmes, d'ailleurs, c'est la question.
Certains viennent d'eux-mêmes, ouais. Certains viennent orientés par leur entourage, certains viennent orientés parce qu'ils veulent rentrer au RSMA et que le RSMA fait un contrôle des urines pour vérifier que la personne ne consomme pas, parce que pour être dans un apprentissage au niveau du RSMA, d'une formation, c'est mieux quand on ne consomme pas. Pour faire passer le permis de conduire, c'est aussi des choses qui sont contrôlées. Voilà, donc ça peut être une orientation du RSMA, ça peut être une orientation des établissements scolaires, de la police, de la gendarmerie, de la commission des permis, ça peut être varié.
Alors au niveau de l'entourage, si on a par exemple un jeune dans sa famille qui consomme du cannabis, on se rend compte que son comportement a changé peut-être, d'ailleurs quels éléments peuvent nous mettre la puce à l'oreille et que faire quand on sait qu'un adolescent dans sa famille consomme du cannabis?
Ah ben, déjà, c'est important de pouvoir dialoguer. Si le dialogue reste ouvert avec l'adolescent, c'est toujours mieux. C'est important, si le dialogue est compliqué, de pouvoir venir nous voir, même si le jeune ne veut pas, mais que les parents, l'entourage puissent venir nous à des clics, poser ses questions, voir quels angles ils pourraient aborder le sujet. Et puis, ça peut être important, les parents, de montrer le cadre, qu'est-ce qu'eux notent, pourquoi, et s'ils s'inquiètent, d'amener le jeune... des fois, ils ne viennent pas forcément de plein gré la première fois, mais il y a souvent une adhésion qui se fait.
Et qu'est-ce qui peut mettre la puce à l'oreille, justement?
Mettre la puce à l'oreille, c'est souvent des changements de comportement. Un jeune qui perd de la motivation, qui peut être somnolent, qui peut avoir une baisse de motivation, une baisse des notes des résultats scolaires. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être aussi l'argent de poche. Il y a beaucoup de jeunes qui nous disent oui, en fait, les parents me donnent un peu d'argent de poche pour acheter le repas du midi, et finalement, j'achète du cannabis ou je fais autre chose, et avec mes copains, on va fumer sur l'heure de midi. C'est des fois des pertes de poids, du coup, liées à ça aussi, au fait de fumer, certains oublient de manger ou sont plus des choses très régulières. Voilà. Donc, ça, il peut y avoir plein de petits indices, mais quand il, voilà, se poser des questions dès qu'il y a des petits changements notables chez un adolescent.
Est-ce que cette campagne de communication, elle s'adresse aussi aux parents, au travers ces messages que vous délivrez aux jeunes, finalement? Est-ce qu'indirectement, les parents ne sont pas touchés aussi?
Oui, oui. Et puis, il y a différents réseaux sociaux sur lesquels on fait cette campagne. Facebook, c'est peut-être plus à l'attention des parents. Peut-être que TikTok, Instagram, c'est plus à l'attention des jeunes. Et puis, il y a LinkedIn, plutôt aussi pour les professionnels de santé. Parce que c'est important, en tant que professionnel de santé, de pouvoir aborder ces sujets avec des jeunes en consultation. Que ce soit des médecins, que ce soit les sages-femmes, que ce soit le dentiste, l'anesthésiste. Enfin, il y a plein de gens qui peuvent aborder ce sujet et pouvoir dire, après, réorienter la personne vers un centre de soins en addictologie ou vers des clics.
Puisqu'on parle d'addiction, est-ce qu'il y a un taux de rechute au cannabis, ou est-ce que quand on a passé cette période un petit peu difficile du sevrage, on s'en sort?
Alors non, il n'y a pas de suivi de taux de, je peux pas vous donner, voilà. Mais on voit quand même que les gens arrivent à arrêter. Il y a des fois des jeunes qui arrêtent pour aller au SMA sur une période importante et qui se disent, bah non, finalement, j'ai plus d'intérêt. Et ils voient le changement, ce que ça a pu leur apporter, le fait d'avancer dans leur projet, le fait de se sentir mieux, de se sentir moins fatigué tout le temps, d'être en forme. Ils disent, voilà, j'ai pas envie de reprendre, finalement. C'est souvent ce qui ressort dans ce qu'on voit.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous avez arrêté les études sur le cannabis par manque de financement. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? Est-ce que, selon vous, il faudrait peut-être, docteur Yann Barguil, me remettre de l'argent sur cette question-là, qui est finalement au cœur peut-être de certaines problématiques de santé publique?
Non, pas forcément, parce qu'on a eu une vision des choses. On a vu que le cannabis calédonien était nocif. On a vu que on a fait des études aussi sur les métaux, le cannabis qui pousse sur sol minier, on voit qu'il est très chargé en métaux, notamment en nickel, chrome, cobalt, manganèse, tout ça, etc. On a étudié le passage des métaux dans la fumée du cannabis, donc on a vu que ces métaux passaient dans la fumée, donc on sait que le cannabis est vraiment très nocif, que celui de Nouvelle-Calédonie, il a un potentiel de nocivité qui est très important. Donc, faudrait peut-être voir si ça évolue et que ça monte encore au niveau des teneurs en THC dans le cannabis. Mais pour moi, on sait que c'est nocif et il n'y a pas de raison que ça aille en s'améliorant, quoi. Au niveau de la Nouvelle-Calédonie.
Et les habitudes n'ont pas changé, parce qu'il y a le cannabis effectivement qui pousse en milieu naturel, on peut dire, et on parlait des sols miniers tout à l'heure pour les communes minières. Il y a aussi toute la culture en intérieur sur plutôt l'agglomération peut-être. Est-ce qu'il y a des différences entre ces types de cannabis d'ailleurs qui sont consommés?
Oui, parce que le cannabis qui est dans des produits de saisie, je parle d'il y a quelques années, dans des produits de saisie, j'ai pu mesurer du cannabis qui venait d'Europe et qui avait des taux élevés de THC, mais aussi de cannabidiol, le CBD. Donc le cannabis qui est fait en Hollande ou en Suisse, qui pousse en Hollande et en Suisse sous serre, est riche en cannabidiol, parce que le cannabidiol a un effet tranquillisant. Donc il est aussi recherché. Donc... voilà, il peut monter les teneurs de THC, il peut être très nocif, mais il peut être riche en cannabidiol. En ce qui concerne les métaux, ben, possiblement qu'il y ait moins de métaux dans ce cannabis qui pousse sous serre.
Ouais. Vous souhaitiez réagir, Marilyn Mel, sur ces questions de cannabis. Est-ce qu'il y a des différences d'ailleurs entre les consommateurs en fonction des localités sur le territoire? Est-ce que vous notez des choses un petit peu différentes, vous, d'un point de vue
Non, il n'y a pas de... voilà. Il y a des... entre jeunes, ils se disent c'est meilleur là, ou... mais c'est vraiment... il n'y a rien de scientifiquement prouvé, ni de...
Ça touche tous les milieux sociaux, toutes les catégories. Là, on parle des jeunes, mais ça touche tout le monde, la consommation de cannabis en Nouvelle-Calédonie?
Oui, ça touche tout le monde. 59% des Calédoniens adultes, selon le baromètre santé, ont déjà consommé. Donc on est à quasiment 60% de la population. Et 15% des adultes fument régulièrement. On a dit que c'était 30% chez les 16-18 ans, on est à 15% chez les adultes.
Quand on dit régulièrement, c'est à quelle fréquence à peu près?
Il me semble que c'est au moins une fois par mois. 6% des adultes fument tous les jours. Ça, c'est, voilà, ça qui fait 16 000 fumeurs quotidiens en Calédonie, à peu près.
Et ça, docteur Barguil, si on fait un test, par exemple, à la suite d'un accident de la route, le cannabis est toujours présent dans l'organisme un certain nombre de temps. Les gens sont pénalement responsables, du coup, de leurs actes. Ça reste combien de temps, le cannabis, dans l'organisme ?
Il peut rester, si on fume un joint, il peut rester 12 heures dans le sang, donc ce sera 12 heures dans le cerveau. Et chez le consommateur occasionnel, donc chez le consommateur chronique, régulier, il y aura toujours du cannabis dans le sang et toujours du cannabis dans le cerveau, oui.
Et dans les urines aussi, parce que souvent c'est les tests urinaires qui sont faits.
Oui, bah alors dans les urines, ça reste très longtemps dans l'urine. Chez le consommateur occasionnel, on peut le retrouver 48 heures après. Et chez le consommateur régulier, on retrouvera, ça disparaîtra jamais.
Tant qu'il n'arrête pas totalement sa consommation.
Oui, voilà. Donc, dans les urines, c'est un moyen de voir si la personne est consommatrice de cannabis. Comme dans les cheveux, si on fait des prélèvements de cheveux capillaires, on voit une consommation. On sait que le cheveu pousse en moyenne de 1 cm par mois. Donc, si on prend 6 cm de cheveux, on arrive à voir la consommation de la personne au cours du temps. Donc, on voit s'il augmente sa consommation, s'il diminue sa consommation. Ça peut être utile d'un point de vue de la dictologie.
Ouais. Ça, c'est d'ailleurs l'une de vos spécialités, ce suivi-là ?
Oui, dans les cheveux, avec le laboratoire Chemtox que je représente, qui est basé en Europe, on fait des dosages dans les cheveux, notamment de tout type de drogue et de médicaments, et donc cannabis. Et les études qui ont été menées en collaboration avec deux psychiatres, Dr Charlot et Dr Sotwell, chez les consommateurs de cannabis qui souffrent de psychose et troubles du comportement, etc., ont été faites en collaboration avec ce laboratoire-là.
Est-ce que c'est irréversible, les dégâts causés par le cannabis ? Je suppose que ça dépend aussi de la dose et peut-être de l'âge auquel on a commencé.
Mais... Il y a les dégâts neurologiques. Les dégâts neurologiques, donc ça, c'est une prise en charge psychiatrique. Les problèmes de comportement, comme le premier trouble du comportement, c'est le syndrome motivationnel que Madame du Déclic connaît bien. Donc ça, c'est la personne qui va être en échec scolaire. Et je veux dire, donc les dégâts peuvent être irréversibles s'il continue de consommer au niveau de l'insertion professionnelle, socio-professionnelle. Mais autrement, les autres dégâts sont les fumées, les goudrons. Et dans le cannabis, il y a énormément de goudrons. Il y a ces métaux qui rajoutent un effet nocif. Et donc, ce qui est irréversible, c'est le cancer. Le cancer du poumon, c'est quelque chose de dramatique. Et en pneumologie, je sais qu'il y avait un médecin pneumologue qui n'est plus au CHT, mais il voyait des jeunes adultes qui étaient en phase terminale de leur cancer des bronches, des poumons. Donc, je veux dire, on a.
C'est plus agressif que le tabac ?
Je dirais que c'est plus agressif que le tabac. Il y a plus de goudron dans le cannabis, dans la plante, que dans le tabac. De plus, on inhale plus profondément. On va arrêter sa respiration, on va bloquer la respiration. Donc les goudrons seront en contact des tissus pulmonaires, des tissus bronchiques, beaucoup plus longtemps que la fumée de tabac. Donc c'est plus nocif, ouais.
Vous recevez aussi des jeunes qui ont des grosses pathologies ou vous les recevez, vous, avant, au niveau de Déclic, peut-être sur d'autres problèmes d'addiction uniquement ?
L'idée de Déclic, c'est vraiment de faire de la prévention secondaire, mais de la prévention. Donc, de les recevoir jeunes, c'est justement ça l'intérêt aussi, c'est d'éviter toutes ces problématiques qui pourraient se développer dans le temps. On voit que c'est difficile parce que sur le cannabis, c'est pas un produit légal. Donc, on n'a pas d'études longitudinales qui pourraient se dire sur 30 ans, ça donne ça, voilà. On est dans des études, ça commence au Canada, puisque le Canada a légalisé il y a 5 ans maintenant le cannabis. Donc on commence à avoir des études qui sortent sur effectivement plus de cancers. J'ai vu une étude il n'y a pas longtemps sur le cancer des testicules qui était en augmentation. Voilà, il peut y avoir effectivement plus de cancers. En tout cas, il y a des risques aussi pour la santé physique. Il y a des risques pour la santé psychique, mais aussi sur la santé physique qu'il ne faut pas négliger.
Peut-être rappeler, docteur Barguil, puisque c'est un débat aussi qui alimente aussi l'actualité en Nouvelle-Calédonie, cette question du CBD qui a été légalisée en métropole, et vous en parliez de cette substance du CBD. C'est une substance qui ne présente pas de risque, en tout cas neurologique, etc. C'est une substance qui est même plutôt présentée comme bonne.
Alors le CBD, c'est une molécule qui n'a pas les propriétés hallucinogènes du THC. Donc c'est le CBD légèrement tranquillisant, il a d'autres vertus, il a des vertus antiépileptiques, etc. Et à ce moment-là, il est incorporé comme médicament, c'est une molécule médicamenteuse, quoi. Mmh. Le THC aussi, c'est une molécule médicamenteuse utilisée à très faible concentration. Il rentre dans la fabrication de médicaments en Europe. En France, on fait des études concernant le cannabis, THC, CBD et la douleur, certains types de maladies douloureuses. Donc le CBD que l'on trouve en Europe et en France notamment, qui est en vente libre, et sont des produits à base d'huile qui contiennent du CBD. Il y a peu de CBD dans ces produits-là. Mmh. Le problème, c'est que ces produits qui sont commercialisés ne contiennent pas que du CBD. Il faut savoir qu'en Europe et en France, le taux légal, c'est 0,30% de THC. Donc 0,3 ou 0,30, si vous mettez un 0 derrière, pourcent de THC. Donc quand ce qu'on vous vend comme étant une huile de CBD, en général, contient aussi un tout petit peu de THC. Donc ça, ce très peu de THC, ça ne va pas engendrer des troubles du comportement. Mais par contre, ça peut positiver les tests salivaires. C'est-à-dire que comme vous en aurez au niveau de la bouche, et si on vous fait un test salivaire, si la police vous arrête et qu'on vous fait un test salivaire, vous positiverez votre test, voilà.
Mais le THC à ce niveau-là, il n'est pas nocif à ce niveau-là.
Il est très 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 faiblement dosé et c'est pas, on le considère comme absolument pas nocif à ces concentrations-là. Donc voilà, si on veut autoriser l'importation de produits à base de CBD, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de THC dedans, voilà. Et maintenant, si je peux rajouter une petite chose, c'est que le cannabis, c'est aussi le chanvre. Le chanvre, c'est un produit qui ne contient pas de THC. Et le chanvre, c'est vraiment une ressource qui pourrait être développée en Nouvelle-Calédonie. En plus de ça, c'est, si vous voulez quelque chose de durable, d'écologique, etc., vous pouvez cultiver du chanvre. En plus de ça, il y a plein de jeunes qui savent comment cultiver le chanvre. En Nouvelle-Calédonie, ça pourrait donner du travail. Et ça a plein de vertus. Ça possède pas du... C'est du cannabis, hein, le chanvre, à part qu'il n'y a pas du tout de THC.
Donc c'est vraiment le THC, cette molécule qui pose problème.
Voilà, c'est ça. C'est celle-là qui pose problème, ouais.
Peut-être un dernier mot, Marilyn Mel, infirmière du programme Déclic, pour vous retrouver, justement, parce que c'est le but aussi de cette campagne. Si jamais on veut s'adresser à un professionnel concernant une addiction, où on se dirige, comment on fait ?
Alors, si vous avez moins de 25 ans ou si vous êtes, faites partie de l'entourage d'un jeune qui a moins de 25 ans, vous vous posez des questions, vous pouvez contacter Déclic au 25 50 78 ou par mail à déclic@ass.nc. Voilà. Et puis, si c'est plus de 25 ans, c'est le centre de soins en addictologie, le 24 01 66, qui peut répondre à votre problématique.
Eh bien, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau ce midi pour nous parler des dangers de la consommation du cannabis. Une interview et une émission qui sera disponible en podcast sur notre site internet rrb.nc. Il est midi passé de 36 minutes. On va poursuivre avec le Café Gourmand sur Radio Rythme Bleu. Le prochain point d'actualité, ce sera à 13h avec le Flash.
Le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.